Bonjour, c'est Hugo Kuypers et bienvenue dans Vestiaire.
Salut Hugo.
Bonjour.
On va se tutoyer, comment on se connaît un peu.
Oui.
On va repartir de tes débuts en pro jusqu'à ton retour en Belgique, parce que c'est finalement là que l'histoire est la plus tumultueuse.
Oui.
On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu te souviens, toi, de ce tout premier match? On est le 3 avril 2016 à Beveren, avec le Standard.
C'est assez simple. On était appelés avec les jeunes du Standard à l'époque, les U21, à s'entraîner par-ci, par-là avec l'équipe première, car la saison était ratée pour l'équipe première. Donc on préparait, la direction en tout cas préparait déjà la saison suivante. Et je pense que c'est le premier match des 6, qu'on était dans une poule de 4 à Beveren, où je rentre 10 minutes et puis entre guillemets plus rien. Donc c'était vraiment la preuve que c'était pas une récompense de ma saison en U21 ou d'entraînement réussi avec l'équipe première. C'était vraiment voilà.
Un cadeau?
Non, non, ni un cadeau, empoisonné ou pas, non, c'était vraiment pour faire le nombre.
Surpris de jouer ce jour-là?
Surpris de jouer, sûrement même oui, en y repensant par la suite, les mois et les années qui ont suivi. C'est un peu, je ne considère pas ça étant mon début professionnel parce que tout était. C'était un peu. Ouais.
Il n'y a pas vraiment de continuité de la
Oui,
confiance, on va
voilà,
dire.
c'était. Je sentais bien que le Standard comptait pas spécialement sur moi. Puis il fallait peut-être un attaquant en ce match-là. Et voilà, c'était tombé sur moi, mais sans que ce soit une récompense.
La saison suivante, c'est toujours à Liège, mais dans un autre club liégeois.
Oui. Oui, un peu dans la continuité, le Standard qui ne compte pas sur moi, mais qui veut pas non plus se débarrasser de moi parce que j'ai toujours été correct envers eux et j'ai toujours tout donné. Et donc, au final, au lieu de rester une année supplémentaire en U21, j'ai décidé d'être prêté à Seraing.
Déçu sur le moment après ses premières minutes pro, de se dire, ben voilà, je refais finalement le pas en arrière.
Non, parce que je sentais bien que d'une part j'étais pas prêt et que d'autre part le Standard ne faisait pas tout pour mettre les choses en place pour mes débuts ou pour vraiment
C'était pas
cette
le standard
continuité.
d'aujourd'hui qui croit
Bien
beaucoup dans ces
évidemment, bien
jeunes.
évidemment. Et la structure maintenant aujourd'hui est bien plus intéressante pour les jeunes. Et moi à l'époque, ben, j'avais vraiment aucune opportunité car la D2 passait à Wick Club. Seraing terminait 9e l'année avant que ça passe à Wick Club, donc descendait en D1 amateur. Et des 24 clubs professionnels, il n'y en a aucun qui était prêt à me prendre dans ces trois attaquants, parce qu'au final, c'est ce qu'on cherchait. Et alors, pour découvrir le football adulte, ben, je suis allé en D1 amateur.
Avec le recul, il te manquait quoi pour passer le cap vraiment de l'équipe première du Standard?
Beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'étais tout simplement pas prêt physiquement, mentalement, sans vraiment savoir ce dont j'avais besoin. Mais voilà, aujourd'hui je peux dire que je suis prêt, mais les années m'ont forgé. Donc ce serait trop simple de dire il me fallait ça ou ça. Moi je ne l'étais tout simplement pas à 18 ans, d'autres le sont. Il m'a fallu plusieurs années pour mûrir physiquement et mentalement et après voilà chacun a son timing.
C'est un constat que tu avais déjà fait à ce moment-là ou que tu as fait plusieurs années plus tard en disant oui, oui, j'étais vraiment pas prêt.
Donc j'ai bien fait par la suite. Sur le moment même je sentais bien que ça n'allait pas comme ça devait mais je ne savais pas ce qui me manquait. Je voyais d'autres jeunes que ce soit au Standard ou ailleurs qui étaient plus avancés que moi et c'était frustrant et quelque part moi je n'entendais qu'une chose c'était de jouer pour le Standard mais je pense qu'au final, c'était une bonne chose de ne pas avoir joué à ce moment-là.
Tu marques 6 buts en 19 matchs en première nationale. Satisfait de cette saison?
Non, absolument pas, parce que tout le premier tour, j'ai presque été à l'arrêt avec une pubalgie, où j'ai eu la chance de me soigner au Standard, parce que j'avais quand même encore accès aux soins du Standard. Mais c'est un championnat assez compliqué. On a tendance, quand on est en D1, à se dire que ce n'est que la D1 amateur, mais une fois qu'on évolue dedans, ce n'est pas pour autant qu'on va y mettre 25 buts. Mais ça a été, comme les autres passages que j'ai eus à l'étranger par la suite, une expérience.
On va en parler.
Voilà, une première découverte avec le monde adulte, des joueurs qui doivent batailler pour chaque point et les primes qui vont avec, parce qu'à ce niveau-là, les salaires ne sont pas les plus élevés, donc on rentre vraiment dans le football concret.
Donc fin de saison à Seraing. Toi, tu es dans quelle optique? T'as un message de la part du Standard à ce moment-là ou?
C'est une très bonne question, je m'en souviens pas pas très bien, mais je pense que très vite il a été clair que eux ne comptaient pas sur moi. Oui, non, le message était clair parce que j'étais dans le noyau C. J'étais dans le noyau C et très vite ils m'ont réintégré U21 pour parce que je ne méritais pas, vu mes années passées là-bas, être mis de côté et forcé à un départ parce que j'avais encore un contrat d'un an. Et là, j'ai été réintégré au 21, j'ai fait un tournoi en France, mais là, moi, après mon année à Seraing, je ne voulais vraiment plus retourner en U21 standard.
Et là, il y a un choix de club qui doit se poser. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un choix, vu tellement il y avait pas énormément de possibilités à ce moment-là?
Il n'y avait pas de choix jusqu'à ce que mon agent me propose le LIRS, car il connaissait très bien le président Maged Samy. Tout était fin août, je pense, réglé avec le LIRS. Sauf que le 31 août, le LIRS n'avait pas réussi à se débarrasser de certains joueurs, donc leur noyau restait trop étoffé. Et là, Maged Samy a dit à mon agent qu'il venait d'acheter un club en Grèce. Donc j'ai fait un choix sans en faire un. Mon seul choix était de quitter le Standard au final, mais pas le club dans lequel j'allais. Et j'ai signé en D2 grec sans savoir où je mettais les pieds.
T'avais jamais été avant, recontextualise, c'est vraiment
Impossible.
l'inconnu
Non,
total.
oui, complet. On est le 31 août, le marché des transferts se termine à minuit, et c'est est-ce que tu y vas ou non?
Et tu sens dans ton entourage ce moment-là le questionnement de se dire est-ce que c'est la bonne idée ou pas spécialement?
On n'a même pas eu le temps de se poser la question. Mes parents m'avaient donné au début du mercato 2 années pour percer dans le football, et pas avec tout le respect pour la D2 ou la D1 amateur, mais vraiment bien.
En vivre.
Voilà, en vivre et avoir une belle carrière. Et donc j'entamais mes 2 ans et je me suis dit, quitte à ne pas y arriver, j'ai envie d'aller à l'étranger, même si ce n'est que la D2 grecque, vivre tout seul, voir ce que c'est de vraiment vivre que pour et du foot, avec personne autour de moi, pas de distraction. Et c'est un pari que j'ai tenté, qui a réussi.
Avec le recul, c'est le plus gros risque que tu aies pris dans ta carrière?
Oui, mais sur le moment même, je ne m'en suis absolument pas rendu compte que c'était un tel
Parce
risque.
qu'on est jeune, insouciant, on se dit, bah, si je joue au foot, j'y vais.
Oui, c'était vraiment ça. Moi, je veux vivre pendant au moins un an du foot, et même si c'est à un niveau très bas, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et quitte à ne pas y arriver, j'aurais pas de regrets.
Et là, ton année là-bas se passe merveilleusement bien.
Mais merveilleusement bien, mais elle a pas
Sur le terrain, en tout
personnellement,
cas.
oui, sur le terrain, mais non, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, elle a été très bonne, mais avant qu'elle ne devienne bonne, on est le championnat, pour l'anecdote, européen, toute compétition confondue, professionnelle, hein, dans tous les pays d'Europe, à avoir commencé le plus tard. Je pense qu'on joue notre premier match de championnat fin octobre.
C'est long.
Donc on ne parle pas encore de Covid, ce sont des saisons normales où tout le monde commence au mois de juillet, août, et avec la corruption en Grèce. Surtout en D2, les championnats étaient retardés pour des raisons que j'ignore encore aujourd'hui. Mais on commence le championnat à 18 clubs et on le termine à 16. Pendant la saison, il y a 2 clubs qui tombent en faillite. Donc ça montre un peu à quel point c'est instable, surtout en D2. Et donc là, sur place, je me suis un peu rendu compte de l'instabilité que c'était de me retrouver dans un championnat si peu connu, reconnu, médiatisé. Et au final, ça a bien tourné.
Et la vie là-bas, c'était comment?
Mais j'ai eu la chance que le club, c'est peut-être pas un hasard, mais que Maged Samy a acheté était en Crète et pas dans le fin fond de la Grèce. Donc la vie à Héraklion est sympa, c'est une belle petite ville, très touristique, facile d'accès pour les Belges. Il y avait des vols directs enfin, tout l'été, et puis même en hiver, c'était facilement faisable, c'est pas si loin, donc j'avais pas à me plaindre.
Ça aide ça qu'on a un coup de moule, se dire, ah, c'est comme ça, pas ici.
Oui, mais rien que la météo, quand il fait ensoleillé, ça met de bonne humeur. Et puis la saison se passait bien, donc j'ai jamais vraiment eu de coup dur ou de coup de mou pendant la saison. Donc globalement, oui.
Parce que tu es nourri à ce que tu préfères, c'est marquer des buts.
Mais oui, cette saison-là, ça se passait très bien. Et donc je ne
T'as
sais pas
encore les chiffres en
comment.
tête?
Oui, 22 en 29, je pense, c'est ça?
Ouais.
29 buts en 29 matchs. Si j'avais eu un coup dur, peut-être que j'aurais eu du mal à le digérer tout seul. Même s'il y a eu des matchs où fatalement j'étais moins bon, où je marquais pas, où j'étais frustré quand je rentrais chez moi, mais je ne les enchaînais pas, heureusement. Et là, ben, quand on est seul à l'étranger, ben, on ne partage les joies avec personne, mais il n'y a personne non plus pour pouvoir nous aider dans les moments compliqués.
Et là, tu attires non pas des clubs belges, mais deux des plus grands clubs grecs, l'AEK Athènes et l'Olympiakos.
Oui, une grosse partie
Notamment.
de la D1, la D1 grecque, donc mes agents faisaient un peu le tour. Moi, ma première envie était quand même de revenir près de la maison, mais les matchs en D2 n'étaient même pas. Enfin, que deux matchs par week-end, je pense, n'étaient télévisés. Et donc, les Belges n'avaient aucune idée de ce que je faisais là-bas ou du niveau du championnat. Ce que je peux parfaitement comprendre. Mais comme tout pays, bah, la D1 suit la D2. Et donc, les clubs de D1 grecs étaient intéressés.
Et là, gros coup de boost de se dire, les grands clubs sont derrière moi, ils ont
Oui,
envie.
en un an, je passe vraiment du tout au tout. Là où je décide de partir en D2 grec sans avoir le choix, j'ai, on va dire, un peu le choix. Et surtout, il y a deux grands noms qui ressortent. Donc, fatalement, ça a flatté mon ego.
Et là, tout s'écroule parce que Ergotelis a une idée en tête, c'est que tu signes à l'AEK Athènes.
Oui, je n'en connais toujours pas le fin fond de l'histoire, mais mes agents rencontrent les deux directions. On a une préférence pour l'Olympiakos et pour des raisons qu'à l'époque, cet été-là, donc on a l'été entre mes 2 années de contrat que j'avais signé en D2 grec, le transfert traîne et eux me forcent un peu la main pour aller à l'AEK. On ne comprenait pas très bien pourquoi et on se disait que, vu que je rentrais dans ma dernière année de contrat la saison suivante, ils allaient lâcher le morceau fin août pour pas me laisser partir librement le 1er janvier prochain. Et au final, on se retrouve le 1er septembre sans que rien n'ait bougé. On avait nos raisons pour ne pas aller à l'AEK. Et malheureusement, ni eux ni nous, dans le sens de l'AEK, n'avons lâché le morceau. Donc je me suis retrouvé à faire mon 2e année de contrat.
Parce que c'est du chantage à bonne et due forme. Tu vas à l'AEK ou tu ne joues plus.
Voilà.
Comment on vit ça?
Ben, c'était pas vraiment, sur le moment même, c'était pas vraiment tu vas à l'AEK ou tu ne joues plus, c'est tu vas à l'AEK ou nulle part ailleurs. Parce que eux voulaient absolument me vendre et moi je voulais absolument partir. Donc à ce niveau-là, on était d'accord. Et puis gros coup dur le 1er septembre. Mais il n'y a plus rien que je ne puisse y changer.
Et là, tu sais, le 1er septembre, que cette saison va être blanche? Ou
Non,
t'espères
parce
encore?
qu'on espérait faire le transfert en janvier. Donc on était sur une période blanche de 4 mois. Et là, ben, on a la carotte du mercato de janvier. Et se dire, il faut absolument que physiquement je sois prêt pour être transféré en janvier. Et janvier, rebelote. Exactement la même histoire qu'en été. On se dit, eux vont lâcher le morceau. Ils étaient toujours sur l'AEK, nous on était toujours sur l'Olympiakos. Ni eux, ni nous n'avons lâché. Et là, ben, finalement, au 1er janvier, j'étais libre de signer à l'Olympiakos librement, en y allant fatalement que l'été prochain. Donc la saison était blanche sur son entièreté, mais moi je l'avais vécu en deux parties, c'est-à-dire d'abord 4 mois
D'espoir.
d'espoir, en me disant je dois être prêt physiquement, et après c'était un peu plus long, mais j'avais la carotte de mon contrat qui avait déjà été signé le 1er janvier à l'Olympiakos, donc je savais pourquoi je travaillais, je n'étais pas dans un cas de figure où j'allais arriver fin de contrat, pas de club qui était là pour m'accueillir et vraiment travailler avec des jours plus compliqués que d'autres. Là, j'avais vraiment l'ambition d'arriver prêt physiquement à l'Olympiakos.
Encore un énorme risque. Raconte-nous cette année, tu fais quoi pour te maintenir vraiment en forme? Parce que perdre un an à cet âge-là, on rappelle que tu étais quand même encore jeune, ça peut briser une carrière.
Oui, mais à nouveau, c'est seulement en y repensant ou en en reparlant maintenant, selon moi-même, je ne suis vraiment pas trop attardé sur ce que je faisais. C'était tellement logique et c'était aller à l'encontre de nos valeurs, mon entourage et moi, de signer à l'AEK. Donc, j'ai presque envie de dire qu'il valait mieux ne pas poursuivre ma carrière professionnelle que se retrouver entre de mauvaises mains.
Et tu n'as pas été à l'AEK parce que tu t'es senti poussé ou parce qu'il y avait des conditions qui ne te convenaient pas du tout?
Ça en devenait menaçant de signer là-bas. Ce n'est que le ressenti qu'on a eu dans les négociations. C'était pas sain.
Tu as parlé de la corruption dans le football grec l'année avant. Est-ce que tu ressens un peu ce climat-là aussi à ce moment-là?
Ouais, le climat était très tendu, mais sans rentrer vraiment dans des détails, on sentait que ça n'allait pas. C'était signé à l'AEK, des conditions vraiment vraiment mauvaise et y être bloqué sur la durée de mon contrat, on sentait bien que j'allais m'enterrer dans le sillage du football grec en signant là-bas. Donc à ce niveau-là, bon, on préférait être libre et garder notre choix pour l'avenir, même si ça aurait pu vouloir signifier la fin de ma carrière.
T'as jamais eu peur à ce moment-là justement de se dire, ben voilà, peut-être que la porte s'est refermée?
Non, parce qu'on a eu la chance que l'Olympiakos a tenu parole sur les premiers mois. Et puis dès que le contrat Olympiakos a été signé, on était reparti. Ceci dit, en ayant fait peut-être deux pas en arrière au niveau footballistique, parce que j'avais été à l'arrêt fatalement. Mais quand même avec un contrat pour me relancer.
Raconte-nous cette année-là, tu fais quoi?
Je m'entraîne principalement physiquement avec un préparateur physique en essayant d'y
En Belgique.
combiner en partie, où j'essaie de combiner le foot avec la partie athlétique. Et quand j'étais en club, ben, je m'entraînais avec l'équipe parce que ça, ils pouvaient pas me refuser. Mais je n'ai pas joué un seul match.
Dur mentalement?
Oui, mais pour moi, tout n'était que logique, vu que l'option de, encore une fois, d'aller à Cannes n'existait pas, bah, c'était soit ça, soit rien. Donc autant faire ça. Et on était dans la fameuse deuxième année que mes parents m'avaient donnée pour signer un bon contrat ou pour vraiment percer dans le football. Et le contrat que je recevais à l'Olympiakos me donnait cet aboutissement-là. Donc l'objectif était atteint et après c'était à moi de faire mes preuves à l'Olympiakos.
Le pire finalement, c'est que c'est pas la première fois que tu te retrouves dans une situation d'un enchant joué. Ça t'était déjà arrivé plus jeune au standard avec une inflammation du tibia, c'est ça?
Oui, c'était même encore avant le standard. Quand j'étais chez les jeunes à Visé, j'avais eu Osgood et enchaîné avec une périostite, donc j'avais été à l'arrêt pendant 18 mois. Voilà, par la force des choses.
Qu'est-ce qui était le plus dur à vivre?
Oh, c'est tellement complètement différent. Dans les deux cas, c'était deux situations que je ne maîtrisais pas parce que ben voilà, mon corps, étant jeune, avait besoin de repos à ce niveau-là, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. Et puis, ce qui s'est passé au niveau des instances grecques, ben, ouais, on peut ressasser tant qu'on veut,
Et le
mais on n'y
regard
change
extérieur à
rien.
ce moment-là, les gens qui se disent un an sans jouer, mais il est fou, il va foutre sa carrière en l'air, tu
Je
n'écoutes
n'y ai
pas?
vraiment pas prêté attention. Et encore une fois, j'étais un petit Belge en D2 grec. Je pense vraiment pas qu'on y a consacré beaucoup d'énergie dans les médias belges. C'était vraiment moi et mon entourage qui nous concentrions sur la suite.
Là, tu arrives enfin à l'Olympiakos avec un contrat de 4 ans en main et tu débarques dans un top club.
Oui, le gouffre entre un club de D2 grec et l'Olympiakos est déjà immense. Mais le faire avec une année à l'arrêt était, pour moi en tout cas, presque insurmontable. C'était passer de D2 grec avec une année à l'arrêt à m'imposer dans cette équipe, c'était presque
Impossible.
mission impossible. Je fais une relativement bonne préparation, mais au final, fin de l'été, et c'était ce qui avait été prévu dès le départ dans le projet, c'était que je sois prêté lors de ma première saison sous contrat, mais ne fût-ce que de faire la préparation à l'Olympiakos m'avait déjà servi de belle expérience, voir ce qui me manquait, où je devais arriver pour pouvoir m'imposer dans l'équipe.
Donc c'est en toute conscience que tu te dis signé à Ajaccio en Ligue 2 française à l'époque. C'est le bon choix pour finalement relancer la machine?
Oui, clairement. Clairement, jouer le plus de matchs possible, ce qui m'avait manqué les années précédentes, à l'exception de l'année évidemment des deux Grecs. Mais non, ça a été de loin le bon choix. La saison était très satisfaisante. Malheureusement, il y a le Covid qui arrive. Donc ça, il y a des gens qui ont été bien plus impactés que moi. Donc vous m'entendrez jamais me plaindre à ce niveau-là. Mais ça fait partie de mon parcours.
On parle aussi d'une équipe qui pensait plus à défendre qu'à attaquer.
Oui, mais malgré ça, on termine troisième quand les championnats s'arrêtent à 2 points des premiers, à 1 point des deuxièmes. Et la France arrête ses championnats et bloque le classement. Les deux premiers montent. À dernière journée avant que le Covid n'intervienne, on bat Lorient qui termine champion du coup. Et je pense vraiment qu'on aurait terminé dans les deux premiers. Donc oui, c'est un championnat défensif très athlétique. On encaissait très peu, mais on avait vraiment un groupe formidable. Un groupe très familial qui ne faisait qu'un, et je pense qu'on aurait été au bout si la saison l'avait été.
Et là, tes stats?
5 buts, 5 assists.
Content?
Non. Non, parce que c'est
Si on
pas.
regarde un petit peu tes saisons, c'est peut-être la moins aboutie en tant
Oui,
que...
au niveau des stats, bien, mais c'est peut-être celle qui m'a apporté le plus. parce que on a un niveau bien plus élevé que la D2 grecque. La Ligue 2 est réputée pour ça, fait jouer beaucoup de jeunes et c'est là que j'ai peut-être grandi le plus vite au final.
La saison suivante, c'est retour à l'Olympiakos, cette fois-ci dans un rôle de... Tu prends part vraiment à cette équipe.
Oui, et là les circonstances, sans me trouver d'excuses, mais les faits sont là, c'est que la Grèce a terminé son championnat tandis que la France ne le faisait pas. Donc moi j'ai été, comme tout le monde, 3 mois à l'arrêt avec le Covid. Et quand je suis rentré à la fin de mon prêt, début juillet à l'Olympiakos, eux reprenaient seulement fin juillet le championnat avec le noyau fatalement de la saison précédente. Ils ont terminé le championnat et le parcours européen parce qu'ils étaient toujours en Europa League jusqu'à fin août. Ce qui fait que moi, pendant 2 mois, je me suis entraîné avec tous les retours de prêt dans un noyau de 7 à 10 joueurs, plus ou moins, sans pouvoir participer aux séances collectives qui étaient exclusivement pour les joueurs du noyau de la saison précédente. Ils jouent la finale de coupe, je pense, le premier week-end de septembre. On a une semaine de préparation, tous ensemble. Et puis, le championnat de la saison suivante commence. Donc, on se retrouve mi-septembre, sans préparation collective, où j'aurais peut-être pu gagner ma place. Et directement, le coach garde presque entièrement son groupe de la saison précédente pour aller faire le parcours européen. Donc, je ne suis pas dans la liste de
Coup dur.
coups durs,
Parce que
mais
tu reviens avec l'idée de t'y
je reviens avec
imposer.
l'idée d'essayer de m'y imposer, mais je comprenais le choix du coach. L'équipe avait été performante, elle est championne l'année précédente, elle fait même le doublé. Un beau parcours en Europe. Donc mes deux concurrents au niveau de l'attaque étaient toujours là. Ils n'avaient aucune raison de bouleverser le tout. Donc déçu, oui, mais tout en étant compréhensif. Et c'est là que j'ai appris à faire la part des choses. Donc j'ai grappillé mes bouts de match en championnat. Il avait encore été question de peut-être partir en prêt, mais moi je voulais tenter le coup. Donc aucun regret à ce niveau-là, et j'ai vraiment grandi au sein d'une équipe on ne peut plus compétitive.
C'est encore une autre expérience que tu n'avais jamais connue, entourée de joueurs quand même qualitativement exceptionnels pour certains.
Oui, je suis un peu arrivé sur la pointe des pieds dans le noyau avec beaucoup d'internationaux. Des joueurs avec une expérience internationale, enfin je parle en club au-delà des sélections, qui n'ont plus grand-chose à prouver, dans un club qui gagne au moins un trophée chaque année et qui fait ses preuves sur la scène européenne. Et moi je venais un peu de nulle part en essayant de m'y imposer, c'est là que je me suis senti grandir au fur et à mesure de la saison, là où en début de saison je n'étais absolument pas prêt à m'imposer dans l'équipe. Fin de saison, je sentais que j'avais vraiment mûri. Même si l'équipe bougeait très peu, ce qui était à nouveau logique vu les résultats qui étaient positifs, on termine champion avec presque 20 points d'avance, donc il y a aucune raison de changer.
Qui t'impressionne le plus dans cette équipe?
Il n'y en a pas un qui sortait vraiment du lot, mais la grosse leçon que j'ai tirée de cette saison, c'est qu'on avait un noyau assez vieux, avec Valbuena qui avait à l'époque 35 ans, Olebas 36, Rafinha 37 ans, il y avait 2-3 Grecs, et qui performaient encore non seulement dans le championnat grec, où on peut dire qu'à 90% des matchs, l'Olympiakos a la main mise sur les matchs, mais en Europe, face à des adversaires de première ligue, etc., et ils tenaient à la route. Et là, pour la première fois, je me suis dit, moi qui à chaque fois trouvais que je perçais sur le tard ou que j'étais en retard par rapport aux autres joueurs de mon âge, pour la première fois, je me suis dit, j'ai encore le temps. Si je gère bien les choses et que j'ai un peu de réussite, je peux encore être performant jusqu'à 35, 36 ans comme eux le sont.
Ça t'a rassuré de te dire que je suis encore jeune?
Voilà. Pour la première fois, alors que pendant des années, je me suis dit que j'avais du retard sur les autres.
T'as été impatient et puis tu t'es dit, en fait,
Voilà.
finalement, la carrière, c'est pas si...
Voilà, chacun a son parcours et c'est son temps pour faire ses choses. Et moi, c'était peut-être un peu plus tard que les autres, mais je me suis dit que j'avais encore au moins 10 ans si tout se passait bien.
À ce moment-là, tu t'entraînes avec des top joueurs. Est-ce que c'est plus bénéfique que de jouer toutes les semaines contre des joueurs moyens?
Non. Non, mais sur cette saison-là, je ne peux pas dire que j'ai perdu mon temps non plus, mais c'est la raison pour laquelle je ne suis pas resté une saison de plus. Parce que le risque était trop grand que de refaire la même saison en grappillant seulement des bouts de match et là je reste à nier.
Mais la suite logique à ce moment-là, c'était un retour en Belgique. C'était la première idée dans ta tête?
Oui, si l'option s'offrait à moi, et ça a été le cas parce que j'ai eu la chance de tomber sur un coach qui me suivait déjà depuis bien avant mon départ en Grèce. Et donc très vite, quand l'intérêt de Malines s'est montré, nous on a voulu sauter sur l'occasion. Mais ça aurait très bien pu être un autre club en dehors de la Belgique. Mais pour nous, il était clair qu'on ne voulait pas refaire une deuxième saison à l'Olympiakos comme ça, et puis tout le monde s'y est retrouvé.
Donc tu reviens en Belgique avec des valises grosses comme une maison. Tu te dis c'est le début d'une seconde vie?
J'avais fait le tour en tout cas de la Grèce, puis j'aurais pu aussi aller dans les clubs de milieu de tableau en Grèce, mais je ne m'y retrouvais pas. J'avais besoin de retrouver cet encadrement familial surtout. Être proche de la maison et pouvoir emménager avec ma copine, avoir quelque chose à côté du football. Et je pense que c'est une des raisons aussi qui a fait que je fasse une belle saison l'année dernière.
Tu as 26 ans, on a l'impression qu'on pourrait déjà écrire un livre avec tout ce que tu as vécu. Parfois, tu te dis, c'est vrai que j'ai une carrière totalement inhabituelle.
Oui, mais c'est seulement quand maintenant on en parle parce que sans y réfléchir, j'ai l'impression que j'ai un parcours tout à fait normal, car c'est le mien. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai vécu n'est pas banal.
Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit dans ta tête, ben, finalement, footballeur professionnel, c'est peut-être pas pour moi, ou ça va être compliqué, ou jamais?
Non, parce qu'au bout du compte, c'est quand même toujours ce que je préfère faire. C'est sur le terrain que je prends le plus de plaisir. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été sans accroc, mais au bout du compte, c'est le principal.
Quand tu as joué, tu as toujours ou quasiment marqué. C'est ton sens du but qui t'a sauvé finalement?
Oui, je pense que le même joueur que je suis à une autre position n'aurait pas percé.
Parce que les stats, les buts font qu'on. Et puis la qualité simplement font qu'on. Ça se remarque plus?
Je pense. Déjà en D2 grec, je pense que c'est très compliqué. D'ailleurs, bah,
Tu mets 10 buts de moins cette saison-là. L'histoire est différente, à
elle est
retenir.
différente, où un cueil perse à une autre position en D2 grec ne signe pas l'Olympiakos, n'évoque pas l'intérêt de grands clubs grecs. Pour avoir joué et par la suite suivi la D2 grec, il y a très peu de joueurs qui, hors
Qui en sortent.
attaquant, en mettant beaucoup de buts, qui en sortent et qui passent le cap de D2 à D1, car la différence de niveau est importante. Et c'est un peu la même histoire en D1 amateur ici en Belgique. C'est très compliqué de vraiment sortir du lot sans stats.
Pas connu, donc division amateur, la Grèce, avec toute la corruption, etc. Un an sans jouer, t'as jamais été dégoûté du monde du foot?
Non, parce que sur le moment même, je pensais à chaque fois à ce qui pouvait se passer de positif. Et c'est seulement en y repensant que je me dis, ah oui, c'est vrai que c'est quand même pas rien ce que j'ai vécu. Est-ce que j'aimerais bien, ou j'espère que certaines choses au sein du monde du foot se passent différemment? Oui. Est-ce que je peux y changer quoi que ce soit? Non. Donc j'essaie de pas trop y perdre d'énergie et juste faire ce que j'aime bien et jouer.
Donc là, 26 ans, t'es reparti pour au moins 10 ans, alors vu l'exemple des Grecs.
Je l'espère.
Est-ce que, après le foot, rester dans le milieu du foot, après tout ce que t'as vécu, c'est quelque chose qui pourrait te plaire, ou finalement tu te dis, ce monde-là, je l'ai connu et ça me plaît pas trop?
Mais il y a les deux côtés. Il y a le côté qui ne me plaît pas, mais à côté de ça, c'est quand même le métier, la branche que je maîtrise et que je connais le mieux. Alors, dire maintenant spécifiquement ce que je voudrais faire dans le foot, je n'en sais rien.
T'as de l'expérience aussi maintenant.
J'ai une certaine expérience, mais l'avenir nous le dira. Je peux sûrement pas dire que c'est un non catégorique, certainement pas, mais sans certitude non plus.
Justement, tu dis cette expérience, jouer encore 10 ans au foot, tu te considères encore comme un jeune joueur ou finalement comme un joueur déjà très expérimenté?
Ouais, c'est un peu des deux. Quand même quelqu'un qui commence à avoir une certaine expérience parce que j'ai la chance d'enchaîner les matchs ces dernières années. Et d'un autre côté, je viens d'avoir 26 ans et ouais, je ne me suis jamais senti aussi jeune dans le football. Je me sentais plus vieux à 22-23 ans que ce que je ne suis maintenant, parce que maintenant je suis vraiment posé, épanoui, et je profite beaucoup plus du moment que dans le passé où je me projetais dans le futur où ouais, ça avait assez peu d'intérêt au final.
Est-ce que justement, quand on a connu ces côtés sombres du foot, on profite d'autant plus de la lumière aujourd'hui et du fait que bah, tu es en Belgique, tu te sens bien, t'épanouis, tu marques des goals?
Oui, mais j'aurais tendance à dire que je ne profite pas non plus trop, car je sais à quel point ça peut vite tourner. Donc j'essaie vraiment de rester dans le moment présent, pas trop me projeter dans le futur. Et quand un moment plus compliqué viendra, je pense que je serai assez bien placé maintenant pour le relativiser plus facilement.
On a bien compris que tu ne feras plus jamais de plan de carrière.
Non, non, je laisse venir. Pour l'instant, là, je suis bien, très bien où je suis et on verra bien ce que l'avenir nous amènera.
Et ça réussit bien avec le statut pour l'instant de meilleur buteur belge du championnat de Belgique, une fierté?
Fierté, non. Pour moi, c'est la récompense d'un long travail et j'espère ne pas m'arrêter en si bon chemin. J'espère que j'aurai toujours, voire mieux, comme titre honorifique à la fin de la saison et pas au cours de la saison.
Merci beaucoup Hugo.
Avec grand plaisir.